Chapitre 32. À la fois attristé et enragé par la mort de tant de braves dans la prairie en fleurs, l'armée d'Outreau s'enfonçait dans les montagnes. Son chef provisoire, le premier commandant Enoch, très droit sur son destrier, portait une cape écarlate pour signaler son rang. Alors que son casque et sa cuirasse brillaient au soleil, tout son corps lui paraissait en fer. Plus lourd et plus dur que la pierre dont ses hommes et lui étaient composés quelque temps plus tôt. Outros partit pour Orogang, Enoch devait commander une immense troupe. Hélas, contrairement au général, il n'avait rien d'un chef charismatique. Depuis le réveil de l'armée, après un long sommeil minéral, beaucoup de soldats étaient tombés. Et tous les autres avaient perdu à jamais leur famille et leurs amis. Un sacrifice qu'ils ignoraient devoir faire 15 siècles plus tôt en partant en campagne avec leur général. Pour ces hommes, le seul objet de loyauté, c'était Outros. Même s'il s'efforçait de préserver l'unité, Enoch sentait que la situation se délitait. Harcelée par des défenseurs d'Ildakar laissés en rade, l'armée avait ensuite essuyé de lourdes pertes dans une prairie semée de fleurs, un piège mortel et un coup terrible porté au moral des hommes. Ce jour-là, Enoch ne chevauchait pas en tête, mais avec l'arrière-garde. Pendant ce temps, l'avant-garde s'était fait rouler dans la farine par une poignée de provocateurs. Lorsqu'il était arrivé sur les lieux, Enoch avait découvert un champ de cadavres. Serrant les poings de rage, il pensa aux rebelles et s'imagina en train de les écrabouiller l'un après l'autre. Sur une force comme la sienne, un millier de morts n'avait guère d'influence, mais pour le moral, c'était dévastateur. Et tout reposait sur les épaules d'Enoch. Même s'il ne le sentait pas grâce au sortilège déroutant des magiciennes, les soldats crevaient de faim et il le savait. Comme des sauterelles, ils dévoraient tout sur leur passage, animaux comme végétaux. Si les dépouilles de leurs frères d'armes n'avaient pas été gorgées de poison, Enoch n'aurait sans doute pas pu éviter des actes de cannibalisme. Prudent, il avait guidé les soldats loin de la maudite prairie et de la viande si tentante. Plus le terrain devenait difficile et plus il se montrait exigeant avec la troupe. En secret, cependant, il déplorait qu'Outros ne se soit pas déjà remontré. L'armée invincible avait besoin de son général. Cela dit, Outros défaillait rien qu'à l'idée de raconter à son chef ce qui s'était passé. Inlassable, la colonne se dirigeait vers un col. Enoch leva un bras, puis il parla assez fort pour que les premiers rangs l'entendent. Ensuite, il ferait passer le mot jusqu'à l'arrière-garde.
« Devant nous, les éclaireurs ont trouvé un grand lac de montagne. Encore une heure et nous nous arrêterons pour la nuit. »
L'ultime camp avant la traversée de Colader. Les hommes s'installèrent autour du lac, partout où la terre était assez sèche pour qu'on y dorme. Sondant la paisible prairie, Enoch inspira à plein poumon l'air sain de la haute montagne. Tout autour, les pics déchiquetés se révélaient d'une étrange et sombre beauté. Alimenté par le dégel en cours, le lac faisait penser à un miroir géant où se reflétait le ciel semé de quelques nuages blancs. En arrière-plan, le bruit des soldats en train de monter le camp avait quelque chose de rassurant. En temps normal, on aurait entendu plus d'éclats de voix, de rires et d'exclamations de joueurs, mais les hommes n'avaient pas le cœur à ça. Enoch avait donné sa vie entière à l'armée. Très fier de chevaucher aux côtés d'Outros, il avait abandonné tout espoir de fonder un jour une famille. Même chose pour la gentille petite ferme dont un vétéran pouvait espérer profiter en d'autres temps. Son passé perdu, Enoch ne se faisait guère d'illusions sur son avenir. Quant au présent, Outros lui avait confié une mission et il l'accomplirait. Si fier qu'il fût que son chef lui ait fait confiance, il savait qu'il ne serait pas à la hauteur. Si Outros ne revenait pas, les premiers déserteurs iraient bientôt chercher bonne fortune ailleurs. Inexorablement, de plus en plus de soldats les imiteraient. Alors que la queue de la colonne entrait à peine dans la vallée, des sergents d'intendance allaient remplir des tonneaux au lac et les cuisiniers se mirent au travail avec le peu de produits qu'il leur restait. Le camp monté, les hommes se défirent de leur équipement et allèrent se laver dans l'eau glaciale. Courageux, ils se débarbouillèrent et s'attaquèrent même à leurs cheveux crasseux. Bravant le froid, certains nagèrent jusqu'au rocher saillant au centre du lac. Les plus inventifs se fabriquèrent des cannes à pêche et allèrent tenter leur chance dans des trous d'eau. Soudain, des murmures coururent dans les rangs et Enoch sentit un changement dans l'air. Plusieurs nageurs crièrent de terreur puis sombrèrent pour ne plus jamais émerger. Sur la rive, des soldats stupéfiés tentaient de repérer un éventuel ennemi. De sa position assez éloignée, Enoch cria
« Le danger vient de l'eau !»
Jouant des coudes, il approcha du lac. Au bord de l'eau, des dizaines d'hommes écarquillaient les yeux, la bouche grande ouverte. En cuirasse, des types plongèrent comme si une force les attirait et ne se remontrèrent plus. D'autres soldats accoururent. Un officier beugla comme un veau, puis saisit un homme par l'épaule et tenta de l'éloigner du lac. Mais il s'immobilisa d'un coup, tétanisé, comme s'il était victime d'un sortilège. Sans retirer sa cotte de maille, il plongea à son tour et sombra comme une pierre. Loin d'être terrifiés, les hommes les plus proches de l'eau poussèrent des cris de joie, puis crièrent des prénoms de femmes.
« Alice, Alice, que fais-tu ici? Tu m'as tellement manqué !»« Jane, nos filles sont avec toi. J'arrive pour vous sauver. Maman, je t'entends et je te vois, attends-moi !»
Comme si chacun était prisonnier de sa bulle, les soldats n'entendaient pas leurs camarades. Hypnotisés, ils voyaient uniquement ce qu'une force mystérieuse les autorisait à voir. Des amis tentèrent de les éloigner du lac, mais ils se défendirent, refusant qu'on les secoure. En un éclair, les sauveteurs eux-mêmes sombrèrent dans la folie. Ils ouvraient grand les bras, certains pleurant comme des gosses.
« Je t'ai cru morte! Comment es-tu venue jusqu'ici? J'arrive, j'arrive !»
Enoch devait à tout prix sauver ses gars.
« On recule, restez loin de l'eau !»
Il avança, bousculant sans pitié des soldats.
« Vous êtes tous cinglés! Cette eau est dangereuse, reculez !»
Se retournant, Enoch fit signe à d'autres hommes de venir sauver leurs camarades.
« Mais ne regardez pas l'eau !»
En avançant vers le lac, Enoch ne vit toujours pas qui ou quoi attaquait ses hommes. Quand il eut enfin atteint l'eau où des dizaines de soldats se noyaient, il découvrit une onde lisse sous laquelle flottaient des visages. Il en reconnut un et entendit une voix qui fit battre son cœur plus fort. Les dents serrées, il tenta de se détourner du lac, mais les yeux de la femme le prirent au piège. Le visage familier, avec les dents de devant un peu ébréchées, les cheveux bruns et les sourcils arqués qu'il avait attirés lorsqu'elle lui avait souri pour la première fois.
« Camille !»
murmura Enoch. Autour de lui, il eut le sentiment qu'il n'y avait plus personne. Une seule chose comptait, ses impossibles retrouvailles. Depuis qu'elle avait entendu son propre nom, l'apparition prenait de la substance. Tendant une main, elle fendit délicatement la surface de l'eau, par en dessous, bien entendu.
« Enoch, mon amour, je t'ai attendu si longtemps, une éternité. »«
Camille !»
Le premier commandant aurait juré que son corps se transformait de nouveau en pierre.
« Enoch, rejoins-moi. Il y a si longtemps que tu m'as abandonné. »
La seule occasion où Enoch s'était presque autorisé à aimer. Camille était serveuse dans une taverne et il la voyait chaque fois qu'il revenait à Orogang. Pour lui, son lit était toujours ouvert et chaud, mais il lui refusait le mariage parce qu'il estimait avoir épousé l'armée. Une union contraignante. Obligé de partir de longs mois, quand ce n'était pas un an ou plus, il finirait par tomber sur un champ de bataille à l'autre bout du monde, Camille ne méritait pas qu'il l'aliène ainsi. Pourtant, en adoration devant lui, elle lui avait juré fidélité. Ensemble, ils avaient eu deux fils, Aaron et Alex, qu'il avait à peine connus. Mais voilà qu'ils apparaissaient sous l'eau, flanquant leur mère. Deux jeunes gars aux yeux brillants, aux joues constellées de taches de rousseur et au nez arrondi, des traits qu'ils partageaient avec lui.
« Papa, viens avec nous !»
lancèrent-ils ensemble. Le cœur serré, Enoch ne put s'empêcher de tendre les bras.
« Je vous ai abandonné il y a si longtemps, mais c'était involontaire, mes petits gars !»
Bien qu'il fût entouré de milliers d'hommes, Enoch n'entendait et ne voyait plus rien que trois visages aimés qu'il avait cru perdus à jamais.
« Rejoins-nous !»
implora Camille.
« Le gardien te réclame, tu l'as assez fait attendre !»
Le visage ridé du père d'Enoch apparut à côté de celui de sa femme et de ses fils. Il devait tant à cet homme qui lui avait tout appris. D'une grande sagesse, il faisait aussi montre d'un sens de l'humour à toute épreuve. Le monde tournant comme une toupie autour de lui, Enoch eut la certitude que les eaux profondes l'appelaient.
« Mon fils, dit le vieil homme, ta place est ici, dans le royaume des morts, avec nous. »
Se souvenant de son devoir, Enoch se ressaisit et demanda d'un ton sec.
« Qui êtes-vous ? Mon père et ma famille sont morts depuis longtemps.
C'est vrai, répondit le jeune Alex d'une voix bien trop grave. Et tu devrais l'être aussi.
Rejoins-nous, implora Camille.
Maintenant que tes soldats et toi êtes éveillés,
insista le père d'Enoch.
Le gardien a eu un avant-goût de vos âmes. Il sait qu'on lui a volé un trésor pendant des siècles. Votre place à tous est ici.
Entendant le ton sévère de son père, Enoch ne put s'empêcher de tressaillir.
Vous devriez être là depuis longtemps, dit Aaron. Le gardien réclame son dû.
Il vous veut tous,
s'écrièrent ensemble les quatre apparitions. Au prix d'un gros effort, Enoch rompit son lien avec elle. Les yeux fermés, il secoua la tête pour s'éclaircir les idées, puis il se força à reculer, tituba et tomba à genoux. Comme la marée, les cris qui retentissaient autour de lui déferlèrent dans sa tête. Relevant les yeux, il vit que ses hommes se lamentaient ou pleuraient. Mais beaucoup étaient morts, et d'autres continuaient à plonger pour se noyer et rejoindre le gardien.
« Non !»
Le premier commandant se releva. Sous ses yeux, des guerriers se suicidaient en masse, un massacre 10 fois pire que celui de la vallée semée de fleurs. Les divisions qui continuaient d'affluer sur le site virent qu'un drame était en cours, mais sans comprendre ce qui se passait. Enoch se retourna, beuglant ses ordres du ton autoritaire et puissant qu'Othros lui avait enseigné.
« N'écoutez pas! Ne baissez pas les yeux sur l'eau, restez-en loin !»
Les hommes proches du lac étaient perdus, inutile de se leurrer. Des cadavres dérivaient déjà sur le ventre et il y en aurait bientôt des centaines d'autres. Le cœur brisé d'avoir dû tourner le dos aux êtres qu'il chérissait, Enoch se consola en songeant que choisir la voie de la facilité n'aurait pas été digne de lui.
« Lieutenant, oui, toi, là, avec tes gars, sauvez ceux qui sont encore sauvables, mais ne vous approchez pas de l'eau !»
L'officier, vert de peur, fit passer le mot, et l'opération de sauvetage commença. Enoch y participa, tirant loin de l'eau des dizaines de soldats. Ceux qui en approchaient étaient terrifiés par les cadavres, mais ils ne semblaient pas mesurer le danger. Des larmes aux yeux, Enoch ordonna à ses troupes de contourner le lac et de continuer leur chemin.
« On abandonne le camp. Impossible de s'arrêter ici. »
Le premier commandant enfourcha son cheval et au grand galop entraîna ses braves loin du piège. Déconcertés ou terrifiés, des dizaines de milliers d'hommes le suivirent. Comme si son cœur était redevenu de pierre, Enoch se demanda s'il commandait de vrais soldats ou des cadavres qui s'ignoraient.